Actu SF, les podcasts.
Son premier roman, Rouille, dont on va parler, paru chez Scrinéo en 2018, a été très bien reçu. Et d'ailleurs, il a été couronné par le prix Imaginal des lycéens, remis hier. Et le second est déjà paru, Les Noces de la Renarde, chez le même éditeur Scrinéo. Mélandoris alors est une grande scénariste de bande dessinée avec Le Cercle, 7, Le Souffle-Vent. Et elle est désormais autrice pour le public des enfants et des ados avec la trilogie des enfants d'Evernight d'après une BD qu'elle avait scénarisée et qui avait été remarquée pour la beauté de son univers onirique. Ensuite, L'Architective, toujours chez Castelmore, et aujourd'hui chez Lynx, sa nouvelle série, Le Passage. Donc il y a le tome 1, Le coq et l'enfant, et je écrivais encore il y a deux jours, la sortie du tome 2 est imminente, mais c'est désormais chose faite. Et alors le tome 2, donc, il est là en première exclusivité, Le journal et le serpent. Voilà, donc c'est la deuxième des aventures de Matteo qui a hérité des femmes de sa famille, le pouvoir de guider les fantômes à travers le temps, ce qui nous permet de voyager dans différentes époques. Julie de Lestrange a écrit pour la télévision, le théâtre et pour l'événementiel, et puis elle a publié son premier roman en 2016, hier encore c'était l'été, et sa suite récente Danser encore, donc qui permet de retrouver la même bande d'amis dans des textes générationnels et manifestement attachants, mais c'est la dystopie young adult qu'elle a fait paraître chez Michel Lafon, La Nouvelle Arche, qui s'inscrit cette fois franchement du côté de l'imaginaire et qui nous retiendra aujourd'hui. Et enfin, Johanna Marines est l'autrice de nouvelles et de deux romans déjà, à côté de son diplôme en pharmacie. Une dystopie, donc on a voilà, un côté dystopique, là, Astronomie, qui est paru en 2018 aux éditions du Flot des Mots. Et puis, une connexion steampunk de part et d'autre avec Cendre, son roman paru chez Snag, qui bon, est peut-être moins steampunk que historico-fantastique parce qu'en fait la technologie et la magie sont beaucoup plus à l'arrière-plan que l'étude des caractères et puis de l'atmosphère bien particulière de la ville qu'elle nous présente, la ville de Londres à la fin du 19e. C'est de ça qu'on va parler ensemble, c'est le thème de ce café. La ville, lieu du romanesque entre fascination et répulsion, et effectivement les métamorphoses des villes sont au cœur de ces quatre ouvrages. Ville du passé, ville du futur. Alors, mêle d'abord, parce que du coup, le pouvoir du passageur, votre héros, lui nous permet justement de confronter presque sans transition deux époques d'une même ville qui est Paris. Donc le Paris d'aujourd'hui et paf, le Paris de la Commune en 1870 et puis bon, celui du nouveau volume. Alors qu'est-ce qui change ? Comment tu orchestres ces changements entre la ville d'aujourd'hui et la ville d'hier ?
Moi, c'est un côté qui me fascine quand je me promène à Paris. C'est le fait que les bâtiments soient, et une mémoire, j'avais beaucoup travaillé là-dessus aussi dans l'architecture, une mémoire que je ne connais pas et que finalement je suis une seconde dans leur histoire. Et donc pour penser ces changements, pour essayer de les comprendre, en fait, j'ai recours à des stratagèmes relativement évidents, genre les albums photos, par exemple, pour la Commune, il y a eu énormément de photographies de prises, donc voilà, pour essayer de voir, de s'imprégner de l'atmosphère, de comprendre ce que ça pouvait être, en fait. Mais il y a aussi besoin de plans, parce que les villes changent beaucoup, et donc notamment pour retourner à l'époque de la Commune, il y a eu des gros changements, notamment après ce qui s'est passé là. Et donc, du coup, retrouver des cartes de l'époque. Voilà, donc tout un travail de documentation et puis après bah, aller sur place, quoi. C'est-à-dire en fonction des lieux que j'ai besoin de traverser, y aller. Voilà, je sais pas, prendre la mesure de l'atmosphère, récupérer les odeurs, les sensations, et puis essayer d'utiliser ça et de les transmettre par le biais du roman. Mais c'est vrai que c'est... Enfin, je pense notamment à Montmartre. C'est très compliqué d'imaginer Montmartre avant le Sacré-Cœur. Et pourtant, c'était nécessaire. Je ne pouvais pas ne pas aller à Montmartre. Mais du coup, voilà, y avait une superposition là qui était très dure à faire pour moi.
Oui, c'est la première scène de Voyage dans le temps, si je me rappelle bien, où effectivement on passe du Sacré-Cœur bondé avec ses touristes à rien.
Un fort dans l'obscurité. Voilà, c'est Montmartre, c'était une butte armée en fait. Hein. Il y avait des canons à Montmartre. C'est ce qui a déclenché tout le bazar en question.
Et dans le nouveau volume, à quoi ressemble le Paris de
l'occupation allemande,
J'avoue, je ne l'ai pas lu parce que donc il est sorti hier.
Donc ouais, c'est Paris occupé par les Allemands, donc j'ai envie de dire c'est étouffant. En plus, j'ai choisi le plein été, donc c'est étouffant de tous les côtés. Voilà, pour Mathéo, c'est un Paris qui se ressemble pas. C'est un Paris où il y a beaucoup de choses silencieuses aussi. J'essaye de pas faire de spoiler, mais voilà, il y a beaucoup de silence, beaucoup de calme dans ce Paris-là, et donc cette chaleur qui pèse. Sur sa ville, alors que lui, il arrive du plein hiver. On est à la veille de Noël, lui, dans son présent. Donc voilà, c'est vraiment... Il y a une dichotomie là qui se crée.
Climatique.
Et puis en termes d'ambiance, puisqu'il part du Paris où c'est bientôt Noël, donc les gens sont dans les rues parce qu'ils font leurs courses de dernière minute. Et Paris, la semaine avant Noël, c'est... voilà. et il arrive dans ce Paris bouillant de l'été. Et où tout est silencieux, réservé, et donc du coup c'est voilà, là on joue plutôt sur la dichotomie de l'atmosphère, quoi.
Floriane, ça se passe également à Paris, puis un Paris qui est pas tellement éloigné de celui du Coq et l'Enfant, puisque on est au tournant du 19e, ouais, toute fin 19e, mais c'est un Paris complètement métamorphosé par comme c'est les produire le steampunk que vous nous proposez de découvrir. Alors, qu'est-ce qui change ?
C'est un Paris qui a très ancré en lui les classes sociales, où en fait, on a un hypercentre parisien qui est enfermé sous un dôme, où l'hiver ne vient jamais, où il fait toujours très bon et très chaud, et où du coup, les bourgeoises ou les nobles peuvent avoir des jardins et s'habiller comme ils veulent toute l'année. Et ça permet surtout de séparer ces personnes riches des personnes plus pauvres qui vivent dans les faubourgs. Du coup, en fait, tout l'extérieur des quartiers vraiment très centraux de Paris devient une espèce de faubourg où on a beaucoup d'usines, où y a de la misère et où les gens rêvent de ce dôme sans jamais pouvoir y accéder parce que c'est des accès très contrôlés. Donc ouais, c'est un Paris un peu différent. En fait, j'ai cherché des cartes. J'ai cherché les cartes des années 90 à 1990 à 1900 parce que du coup, c'est une période de charnière aussi. On a construit la Tour Eiffel à cette période-là, donc tout est en train de se mettre en place. Ces éléments qu'on a l'habitude de voir, qui sont pour nous tellement ancrés dans le décor qu'on les remarque même plus. La Tour Eiffel, voilà, elle est là. Et ben pour eux, c'est nouveau encore. C'est des choses qui viennent d'arriver. Et du coup, j'ai cherché les cartes pour voir comment c'était agencé, quels étaient les bâtiments que je pouvais réutiliser, qu'est-ce qui existait déjà. Et du coup, j'avais imprimé une carte et j'avais redessiné les contours de mon Paris avec mon dôme, alors comment je mettais, quels étaient les quartiers qui étaient coupés. Et j'avais tout réorganisé en d'autres faubourgs, en fait. Donc du coup, tout le nord-est devenait des faubourgs mécaniques où il y avait des grandes usines, où on venait travailler voilà, tous les jours à la mine. Le sud était pris donc, sur le cimetière du Montparnasse était devenu une extension de ce qu'on appelle la foire, qui est une espèce de grande fête foraine qui ne s'arrête jamais. Et du coup, ouais, c'était très intéressant de travailler sur des vrais documents historiques et d'imaginer ce qu'on aurait pu faire d'autre si ça avait un peu mal tourné.
Oui, puis de le croiser avec donc un imaginaire steampunk,
oui, voilà,
que lui on retrouve mais dans Paris.
C'est ça. Après, l'avantage du steampunk, c'est qu'en fait, comme c'est une époque qui a vraiment existé, on se base quand même sur la Belle Époque, mais qui est quand même une période réelle dans notre histoire. Mais on a cette possibilité d'avoir énormément d'informations historiques et de pouvoir se baser sur des choses qui existent vraiment. Et du coup, c'est ce que j'ai essayé de faire dans Rouille. Il y a énormément de choses qui sont historiquement vraies. Et de leur amener parfois un petit supplément fantastique ou mécanique ou voilà, d'autres choses, un peu de science-fiction.
On va dans la Lune.
Voilà, pour séparer ces données réelles pour les amener dans l'imaginaire.
Alors la transition est directe avec Cendres, alors qui se déroule cette fois à Londres en 1888, et voilà qui, ce que vient de dire Florian fait assez directement écho, en particulier pour le support documentaire au départ. Alors pourquoi ce choix de ville et d'époque ?
Déjà à l'époque, moi c'était quelque chose qui me fascinait vraiment, le 19e siècle, cette époque me plaisait beaucoup. En plus, on a tous dans l'imaginaire, je pense, on a tous en tête les meurtres de Jack l'Éventreur qui se passaient exactement à cette époque. Et j'avais vraiment envie, au cours aussi de mes études et de mes stages, j'ai eu l'occasion de passer quelques mois à 1 heure de Londres, donc j'ai eu l'occasion aussi de visiter cette ville-là. Et ça m'a donné envie voilà, de faire une histoire à cette époque-là. Et du coup, je rebondis aussi sur ce qu'a dit Floriane. C'est vrai que moi, dans Cendres, il y a aussi des petits ajouts du coup steampunk qui vont du coup amener des petits éléments, voilà, un peu fantastiques à l'histoire. Par exemple, dans la ville, j'avais repris l'idée des pigeons voyageurs, sauf que cette fois-ci, c'était des petits automates voyageurs. Il y a en particulier, par exemple, un petit oiseau qui s'appelle Piclou, qui est au centre de l'histoire. Et voilà, je trouvais ça intéressant vraiment de décrire cette époque-là et de décrire aussi la misère, parce que c'est quelque chose qui m'a touchée beaucoup. Et quand j'ai découvert le roman de Jack London qu'il a écrit, en fait, qui est allé directement sur place en 1902 pour passer plusieurs mois dans leur quotidien, le quotidien de...
C'est quoi le titre ? Il te revient,
Le peuple d'en bas.
D'accord.
Voilà, le peuple d'en bas. Et du coup, voilà, il décrit vraiment la misère d'un quartier en particulier, l'East End, où les conditions de vie étaient vraiment affreuses, où les personnes s'entassaient dans des petites chambres où d'autres personnes en profitaient et faisaient payer ces chambres hors de prix. Et donc voilà, c'est toutes ces conditions de vie aussi que j'ai voulu explorer et que j'ai voulu raconter dans ce roman aussi. Mmh.
Donc effectivement, il y a quelques ajouts steampunk, mais c'est quand même une ville plutôt fidèle à la réalité historique, beaucoup moins métamorphosée que le Paris de Rouille. Je vous préviens, je risque de mélanger Rouille et Cendres, hein, parce qu'à chaque fois, qui semble tout à fait documenté. Et en particulier, il y a ce fait très frappant qui donne, entre autres, son titre au roman, de ces pluies de cendres.
De pluies de cendres, voilà, parce que il y avait beaucoup d'usines à l'époque, et du coup... plusieurs jours, on va dire, enfin une fois par mois, il y a ce nuage de cendres qui retombe sur la ville et qui en fait qui rend l'atmosphère totalement étouffante et irrespirable. Et du coup, les habitants vont devoir se calfeutrer chez eux pour pouvoir tenter de survivre et pour échapper finalement à ces pluies de cendres qui sont mortelles.
Et ça, bah, ça développe une réalité de l'époque qui était le smog omniprésent, le charbon qui brûlait, qui effectivement faisait retomber une cendre, une poudre noire sur... donc cette thématique de la pollution me fournit une transition vraiment fine vers la partie dystopique de notre corpus. Alors, avec encore chez chez Florian son roman Astronomie, donc qui là pour le coup est la partie dystopique. Qui file encore plus loin donc que Cendres, l'idée d'un monde proprement irrespirable.
Oui, puisque dans Astronomie, du coup, mon premier roman, il y a une catastrophe 100 ans plus tôt qui a fait que l'air est devenu toxique et les habitants, à la naissance, en fait, on leur implante des bouteilles dans leur dos et finalement l'air devient un bien de consommation. Donc de nos jours, on voit même l'eau qui est un besoin vital, on la paye. Donc j'ai essayé d'imaginer un futur où l'air deviendrait lui aussi un bien de consommation et où les personnes devraient payer l'air pour... voilà, pour survivre.
Julie de Lestrange, on peut sortir de la communauté que vous décrivez. C'est comme ça que s'appelle la ville, elle n'a pas d'autre nom. Hein. C'est la communauté. Et d'ailleurs, c'est comme ça que s'ouvre le roman, hein, sur une de ces échappées de l'héroïne Mathilde qui aime marcher à l'extérieur autant qu'elle le peut. Mais on ne peut pas aller très loin tout de même.
Non, moi c'est une ville assiégée, assiégée, oui, c'est une communauté, c'est à la fois le nom de la population et de la ville qui a fui un territoire ennemi lors d'une précédente guerre civile et donc ils sont effectivement en proie à des attaques assez régulières de la part de ce territoire frontalier. Et voilà, donc moi c'est une ville effectivement c'est la ville du futur, c'est un peu à l'image des banlieues américaines. et qui en plus vit pour partie sous terre avec une grande partie des habitations qui est enterrée pour échapper effectivement à la menace régulière des attentats. Voilà, mais c'est une ville assez aseptisée. C'est le contraire, et par ailleurs ils sont en plein désert, donc effectivement c'est très aseptisé, c'est pas du tout la même ambiance. Pour autant, c'est tout aussi effrayant, je trouve, peut-être sous un autre regard. Voilà, oui.
C'est au milieu du désert, et vous la qualifiez de fourmilière ou encore de gigantesque centre commercial. Hein.
Oui,
c'est
on est dans un monde.
Les villes américaines qui vous ont inspiré.
Alors en partie les villes américaines, les villes françaises. Si on va en banlieue française, dans les banlieues des grandes villes aujourd'hui, c'est on tend à aller vers ça. La banlieue parisienne, c'est aujourd'hui ni nature ni culture, c'est-à-dire c'est des centres commerciaux à perte de vue avec des habitations les unes sur les autres à perte de vue. Donc c'est exactement ce que j'ai voulu décrire. À mon sens, ce qui est une dérive inquiétante et je pense que ça, oui, ça désume. Il n'y a pas très longtemps, j'étais dans l'Essonne et j'ai voulu aller au cinéma. Et le cinéma se trouve où ? Au cœur du centre commercial. Et c'est-à-dire qu'on sort de là, on est face à... En fait, tout se passe dans ce centre commercial. On dîne en face chez Flun, chez McDo, chez tout ce que vous voulez. Et les jeunes se réunissent là et ça devient le centre de vie. Et d'ailleurs, le centre commercial, dans mon livre, je l'ai appelé le centre de vie, oui. Parce que c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on trouve de tout dans un endroit T qui est à l'opposé de la nature, qui est une construction faite par l'homme, qui est donc... à mon sens, complètement à l'opposé de ce qu'on est, de ce que l'être humain, ce à quoi il aspire. Enfin bon, ça, c'est un autre débat. Mais oui, enfin, voilà, c'est cette vision un peu inquiétante vers laquelle on va, malheureusement.
Oui, tout à fait. La table ronde s'appelle entre fascination et répulsion. Et effectivement, ce qui unit vraiment les quatre romans, c'est la ville comme lieu d'oppression. Avec à chaque fois un message politique assez clair à l'arrière-plan. Et donc, vous, Julie, c'est une ville complètement déconnectée de la nature, effectivement, avec ce désert, avec les tentatives pour faire pousser des plantes du père de l'héroïne, et puis notamment, donc, y compris dans son mode de procréation qui est au centre de l'intrigue.
Oui, mais on assiste... c'est la première fois, par exemple, ça fait 4-5 ans que le flux migratoire s'est inversé à Paris, pour une grosse ville, mégalopole. C'est-à-dire qu'avant, les gens venaient à Paris. Et depuis 4-5 ans, c'est le flux inverse. Il y a plus de gens qui quittent Paris plutôt que de gens qui n'y arrivent. Et c'est vrai que quand je travaillais à l'époque dans cette région, et un jour, je me souviens être arrivée, avoir pris le RER à la Défense, être arrivée le matin avec tout ce flux, et d'un seul coup d'avoir vu ces deux RER qui étaient de chaque côté du quai se déverser, mais déverser un flot humain, hein, vraiment un troupeau, il n'y a pas d'autre mot, qui monte dans les tours, qui déjeune au premier, et qui redescend directement dans le RER, c'est-à-dire qu'il ne voit pas la lumière du jour de la journée quand même, qui ne sort pas à l'air libre.
Ouais, pas la dalle n'est pas faite pour ça.
C'est complètement aliénation. Enfin, c'est de l'aliénation.
Fumer sur le parvis.
Voilà, pour fumer sur le parvis, c'est de l'aliénation au sens où on, l'être humain est avant tout un animal. Enfin, on l'oublie, mais c'est-à-dire que la ville a ce côté effrayant, je trouve, en cela, c'est qu'on et en même temps, c'est nécessaire parce qu'on est obligé d'être connectés les uns aux autres d'une certaine manière. On est obligé de s'organiser pour survivre. C'est le cas de ma communauté. Mais donc, voilà, où est-ce qu'on place le curseur entre la nécessité de se regrouper pour avoir, voilà, pour faire appel les uns aux autres et puis celle de respirer, quoi.
Alors, respirer, on y revient. Mel, justement, dans votre... Là, du coup, je vous rebondis vraiment. Il se trouve que Mathéo, le passager, a des problèmes respiratoires. Donc, on a vraiment une... non, mais on a vraiment une image de ça, de cette difficulté à prendre son souffle, quoi.
Oui, le personnage a des difficultés respiratoires. Alors, pour lui, c'est un héritage d'une grave maladie qu'il a eue enfant. Et c'est aussi quelque chose qui est généré par le stress. Et en fait, le monde, entre guillemets, l'univers, son monde pèse sur lui. Et du coup, ça referme ses poumons. Je trouvais que c'était une image intéressante parce que, ouais, on parlait du RER, des gens qui s'entassent, etc. J'aime pas trop bien la foule, beaucoup. Et j'habite en région parisienne, c'est compliqué. Et donc, des fois, ça arrive parce qu'il y a un RER en retard ou parce qu'il y a un problème. Voilà. On se retrouve dans un RER entassé, mais vraiment entassé avec... du contact avec tous les êtres humains autour de soi. Et en fait, là, généralement, moi, je sens vraiment mes poumons se refermer. C'est-à-dire que j'ai une espèce de montée de stress et de tous les muscles en fait qui se crispent, et les poumons étant mobiles par le biais de muscles intercostaux, bah, je les sens qui se crispent aussi, et donc ça me semblait évident pour matérialiser cette inquiétude qui ronge Mathéo. Il n'a pas une vie facile. Du coup, de parler de ce phénomène-là, de fermeture des poumons, comme si tout à coup, en fait, la vie est tellement agressive qu'il la repousse en arrêtant de respirer. Alors, c'est pas du tout conscient et il aime pas trop beaucoup ça non plus, parce que bah, après, il a la respiration qui siffle, les poumons qui se referment, il voit plus. Enfin voilà, c'est compliqué. Mais je trouvais que à l'intérieur, enfin dans le grand panel des manifestations physiques qu'on peut avoir sur le malaise, le mal-être, la respiration est très intéressante, parce que bah, c'est ce qui nous maintient en vie. En fait, c'est quelque chose que normalement on ne réfléchit pas, on ne pense pas, et qui nous échappe un petit peu. Et donc la rendre tout à coup dangereuse, manifestation de la lutte contre la vie qu'on est en train de mener, je trouvais que c'était le bon angle d'attaque.
Johanna, j'imagine que la dystopie astronomie, donc, qui est vraiment fondée sur la difficulté de respirer,
c'est ça, puisqu'ils ont les bouteilles qui sont directement implantées dans le dos, et ils ont des fils externes du coup qui sont reliés aux poumons, et ils ont à ce titre en fait perdu aussi l'inspiration, donc ils ne ressentent plus, ils n'ont plus l'odorat. Donc toutes les odeurs, c'est difficile pour nous d'imaginer un monde sans odeurs, mais du coup, on va voir. Par rapport aussi à notre héroïne, comment on va faire par rapport à ça. Et c'est vrai que j'avais vraiment envie de dans ce roman de montrer à quel point la respiration pouvait être difficile, et aussi que certains s'enrichissaient sur ça. Avec quand on imagine que l'air peut être vendu, forcément il y a des personnes qui vont tenter peut-être d'en contrefaire, et tous les réseaux derrière qui vont apparaître et qui vont émerger. Voilà, avec les dangers que ça peut comporter.
Et du coup, ça produit une architecture urbaine extrêmement verticale, avec une répartition assez classique des classes sociales selon cet axe-là, donc avec en bas les pauvres et en haut ceux qui peuvent se permettre de toucher le ciel.
C'est ça, puisque dans le roman, du coup, on a ce qu'on appelle les bas-fonds. Il y a trois classes en fait dans la ville, donc les gold, qui eux ont une autonomie en air qui est beaucoup plus élevée forcément que les plus pauvres. Et on a effectivement cette verticalité dans la ville et les différentes classes qui entraîne forcément du coup des conflits entre eux, et qui vont aussi amener beaucoup de péripéties dans le roman.
Cette lutte des classes, hein, je crois qu'on peut appeler ça comme ça, elle est très présente dans la Nouvelle Arche, dont la problématique est pas la même, est plus générationnelle. Mais Floriane, dans Rouille, c'est vraiment quelque chose qui a été très célébré, très apprécié par les lecteurs. C'est l'angle social que vous avez apporté à un steampunk qui était plutôt souvent dédié à des jolis aristocrates en crinoline qui vont de bal en bal, ou alors limite à des aventuriers. Ici, on est vraiment du côté des bas-fonds, des classes laborieuses et des marges.
Oui, tout à fait. Moi, j'avais lu pas mal de steampunk. Je l'avais vu déjà, beaucoup de steampunk. C'est vrai que dans l'esthétique steampunk, les femmes portent des très belles robes. Elles ont beaucoup de bijoux. Enfin, c'est vraiment une esthétique qui est très jolie et qui correspond du coup très, très bien à ces classes sociales hautes qui vont avoir du beau tissu, qui vont pouvoir faire de très belles robes, avoir des beaux costumes. Et dans ce que j'avais lu, c'est vrai qu'à chaque fois, je retrouvais que ces classes-là. Alors après, je suis probablement très influencée par Estelle Faye, qui aime beaucoup aussi ce que nous, entre nous, on appelle les petites gens, quoi. Et j'avais envie de parler de ça parce qu'au final, dans la Belle Époque, ce qu'on retient beaucoup de cette période, c'est les grands bals, les grandes soirées, ces grandes orgies, ces maisons closes dont on ne se souvient vraiment que des jolies choses, en oubliant que derrière, c'était une usine, c'était une industrie de viande. Les femmes, elles tournaient à... Dans le livre, Violente est assez épargnée. Elle a un nombre de clients assez réduit, mais ça pouvait tourner à plusieurs dizaines d'hommes par nuit, parce qu'il fallait faire du chiffre, parce qu'elles étaient là pour travailler. Et du coup, c'était vraiment montré tout ce côté un peu oublié du steampunk, tous ces personnages au fait qu'on voit jamais. Parce que j'ai une lectrice qui m'a dit que beaucoup, souvent dans le steampunk, c'était pas du tout réaliste parce qu'on avait des jeunes filles, souvent, de la haute société, qui étaient très amies avec des prostituées, personnes qu'elles n'avaient absolument jamais l'occasion de rencontrer dans la vraie vie. C'était impossible, c'était deux mondes complètement différents. Et voilà, j'avais envie de montrer cette population un peu oubliée du steampunk, qui pour moi est vraiment la plus intéressante parce que c'est eux qui vivent les vraies choses, qui voient la ville d'une autre façon. Et en fait, souvent, la ville, c'est pas joli. Et Paris, c'était pas très beau. Et on en a gardé que ce qu'on a voulu en garder. On a beaucoup oublié aussi ce qui se passait dans les rues. Comme l'a dit Johanna, l'entassement, les gens qui devaient vivre à 10 dans des appartements de 20 mètres carrés, qui n'avaient pas l'argent pour et payer un loyer et nourrir leurs enfants. Et qui du coup travaillait toute la journée et en plus derrière allait se prostituer pour survivre, pour joindre les deux bouts. La mortalité infantile, on retrouve dans Rouille toute une petite compagnie d'orphelins qui survivent comme ils peuvent dans une décharge et qui font des petits boulots pour survivre. Paris était surpeuplé d'orphelins et ça on a complètement occulté parce que c'est pas des choses qu'on a envie de se rappeler, c'est pas joli, ça fait pas beau. Et c'est ça que j'avais envie de raconter. Ouais. Du coup, forcément, tous ces gens-là vont se confronter à des classes sociales plus aisées qui ne vont pas avoir du tout les mêmes considérations qu'eux, alors qu'ils vivent exactement dans la même ville. Et voilà, c'était ça que j'avais envie de montrer et d'explorer.
Johanna, ça a été le même principe que vous avez adopté pour Cendre, puisque c'est vraiment la misère sociale également là qui pousse, qui lance le trajet de votre héroïne et qu'elle va être amenée à investir à rentrer dans un superbe manoir, précisément à toucher à l'autre classe sociale assez directement.
C'est ça, puisque Agathe, l'héroïne, elle, sa mère est souffrante, elle est pas dans la misère, mais
Oui, elle y arrive. Elle glisse doucement.
Elle glisse doucement, en tout cas. Et sa mère étant souffrante, elle va à tout prix vouloir trouver un travail. Et elle va passer, du coup, de l'autre côté et arriver dans un manoir très luxueux, une famille de riches négociants de diamants qui, eux, ont fait fortune et qui, d'ailleurs, n'hésitent pas à le montrer ouvertement, sans gêne. Et du coup, cette héroïne, elle va vraiment du coup découvrir l'autre côté de la ville qu'elle n'avait jamais connue, rentrer dans des bals mondains où elle devra du coup porter de très belles parures de bijoux pour
parce que c'est son métier. Ouais,
c'est son métier,
c'est
voilà.
C'est ça qu'elle fait. Elle.
C'est ça. À la base, elle voulait être
parurière,
voilà. Et voilà, elle va découvrir l'autre côté de la ville qu'elle n'avait jamais eu l'occasion de côtoyer avant.
Et Mel aussi, le pari de la commune que vous présentez, c'est vraiment un pari populaire. C'est le moment de l'utopie libertaire.
C'est aussi, je me suis centrée, je ne pouvais pas faire toute la commune, en fait, je ne pouvais pas tout présenter en un roman. Je me suis centrée sur la semaine sanglante, je me suis centrée sur la fin de l'espoir, en fait, le moment où tout s'écroule finalement et sur la violence de la répression qui s'est abattue sur ce peuple parisien qui avait eu la volonté de s'autogérer. Ils ont pris cher à la fin de la commune. Ça a été un véritable massacre. Et on parlait de choses qui sont occultées, ça aussi. À l'heure actuelle, la commune de Paris, on en parle pas.
Ça revient. J'ai été frappée par plusieurs textes récents autour de ce moment. Et très bonne chose, voilà.
Je pense que c'est aussi inspiré par l'époque. En fait, on est à une époque où on a envie d'avoir un souffle populaire qui réinvente le monde. Et la Commune de Paris voulait réinventer sa gestion. Enfin, il y a eu des initiatives, j'en parle dans le livre, mais il y a eu des initiatives extraordinaires. Ils ont pris en charge justement les orphelins. Il y avait un fonds pour nourrir les orphelins, pour les prendre en charge, les veuves aussi. Voilà, toutes les petites gens, en fait, se sont organisées pour aider les plus petits qu'eux. C'était extrêmement... j'ai envie de dire extrêmement de gauche comme initiative mise en place.
Utopique.
Voilà. Et donc, du coup, le gouvernement qui s'était retiré à Versailles, au début, je suppose qu'ils ont cru que ça allait s'effondrer parce qu'on ne pouvait pas se passer d'eux. Et en fait, quand ils ont vu qu'on se passait d'eux, alors là, ils ont récupéré l'armée et puis ils ont roulé dessus, quoi. Mais ils ont roulé dessus. Il y a eu, en termes de morts, les chiffres sont... pas, enfin, ils sont contradictoires, etc. Mais on ne parle pas de centaines de gens, on parle de milliers, quoi. Et puis de dizaines de milliers probablement.
Et donc, en parallèle de cette fin de l'utopie communarde, on a, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, le héros banlieusard qui vit à Évry et dont les trajets en RER, parce qu'il faut qu'il soit sur place pour passer, sont chaque fois décrits. Et du coup, dans l'ensemble, crée une vraie célébration, là encore, de la marge, des gens du voyage. Enfin, voilà,
Oui, et puis, comme il a un contexte familial compliqué, je lui fais passer une nuit dans les couloirs du RER, en fait, puisqu'il y a une nuit où il ne peut pas dormir chez lui. Et donc, du coup, il dort dans les couloirs du RER et il dit, à chaque fois que je suis obligée de dormir dans les couloirs du RER, d'abord, il est frappé par le fait qu'ils sont pleins et puis on les laisse dormir. Enfin, voilà, ils sont pleins et tout le monde passe à côté. Et puis voilà, et il est aussi frappé par l'idée que c'est peut-être la nuit qui fera que ce sera toutes les nuits et qu'il dormira plus jamais dans un lit. Et donc ça, je voulais aussi en parler parce qu'il n'y a pas que la commune, il n'y a pas que pendant la commune qu'il y avait des gens pauvres et qui avaient besoin d'un changement. Enfin, voilà, encore aujourd'hui, et on n'a pas fini. Voilà, donc ça aussi, je voulais l'évoquer, pas seulement dans le passé, mais également dans le présent de cette ville, où, pour le coup, moi, ça fait une dizaine d'années que j'y suis, et les rues se remplissent. Parce qu'on parlait du fait que les Parisiens s'en allaient, mais il y a une zone où on voit de plus en plus de monde, et c'est sur les trottoirs.
Et la famille Rome les Roms font le lien entre les deux époques en restant à chaque fois dans une marge où on va pouvoir
exactement ils sont ostracisés alors ostracisés ouais. Aujourd'hui enfin ostracisés toujours oui.
et le rôle du passager aussi est de
oui de faire le lien entre les époques et entre les mondes.
Le monde de l'Arche est a priori beaucoup plus confortable, mais il a lui aussi un envers secret qu'on commence juste à découvrir dans le premier volume. Mais bon, on se doute, c'est une dystopie, que tout n'est pas si rose.
Oui, ça marche. Oui, absolument. Mais c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans la pauvreté parce que, d'abord, c'est une petite communauté. Donc, comme ils sont peu nombreux, il faut qu'ils survivent. Quand on doit survivre, généralement, on a intérêt à s'entraider les uns les autres. Donc, on ne peut pas se permettre de laisser tomber un des maillons de la chaîne. Ça ne marche pas. Et d'autre part, ils ont quand même trouvé une mine de thorium. Un thorium qui est un minerai, dont on espère beaucoup pour le siècle prochain en termes d'énergie.
Ça existe vraiment ?
Ça existe vraiment, d'accord. Absolument, oui. Donc voilà. Et donc voilà. Donc,
moi, je pensais que c'était comme le lunium ou l'éternium. Ça, c'est faux.
Non, j'ai essayé de. Alors, contrairement, j'ai pas fait de recherche en termes de géographie, etc. J'ai fait beaucoup de recherches scientifiques pour essayer d'installer une vision la plus plausible possible, même si c'est de l'ordre de l'imaginaire, mais voilà. Et qu'est-ce qu'on disait ?
Le thorium, la petite communauté.
Voilà,
qui thorium, vit avec
et donc,
thorium.
Oui, donc effectivement, ils sont plutôt riches et c'est ce qui leur permet de survivre. Néanmoins, effectivement, c'est pas une vision idyllique parce qu'ils sont persécutés sans savoir pourquoi, parce que d'avoir détérioré leur environnement climatique a provoqué des tonnes de catastrophes en série, ce dont on nous parle tous les jours en ce moment. C'est arrivé, malheureusement. C'est pas la fin de l'être humain, mais néanmoins, c'est quand même, on évolue dans un environnement beaucoup plus hostile qu'auparavant. Donc les femmes n'arrivent plus à mener des grossesses à terme. Et tout ça, effectivement, compose une société un peu particulière, basée pas forcément sur la peur, mais en tout cas sur une vision de l'avenir assez... ils voient un peu au jour le jour, en tout cas. Voilà.
Et l'autre grande modification par rapport à... Alors là, pour le coup, je ne spoil pas, parce que c'est vraiment le pitch de départ. Ces enfants qui naissent déjà ados, voire adultes, parce qu'ils sont créés en utérus artificiel.
Oui.
Ils déconnectent complètement les générations.
Alors voilà, on déconnecte en plus complètement les générations. C'est-à-dire que dans la Nouvelle Arche, effectivement, comme ils sont persécutés et que les femmes ne peuvent pas mener de grossesse à terme, les enfants naissent, on les fait grandir dans un utérus artificiel, on les fait naître à l'âge de 15 ans. Donc ce sont des individus matures, avec un corps développé, et on leur apprend à vivre à partir de là. Donc ils n'ont aucune expérience de l'enfance, ils sont formatés dès le début, éduqués, et ils n'ont aucun lien avec leurs parents. C'est-à-dire qu'ils ont quand même des géniteurs qui, eux, en revanche, n'ont pas connu ce mode, donc qui nourrissent des sentiments à leurs égards, et ils sont complètement, ils en sont complètement déconnectés. Et donc aussi, j'ai trouvé important de faire ce lien générationnel, de l'importance de recevoir l'enseignement des plus âgés. Et effectivement, Mathilde, qui est mon héroïne, qui naît à l'âge de 15 ans et qui en a 20 au moment du livre, va être contrainte et forcée, mais heureusement, de reconnecter avec ses parents. Voilà, parce que mine de rien, l'histoire vient de là aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce qu'on sait aujourd'hui, on ne l'apprend pas de nulle part. Donc voilà.
Johanna, dans le dérèglement climatique est également à l'origine de la ville de Toronto telle que vous la montrez dans Astronomie. Et également, un personnage va, pour le coup, venir du passé bouleverser les choses.
C'est ça. Puisque, du coup, dans ce monde-là aussi, donc à cause du réchauffement climatique, l'eau est montée. Du coup, Toronto est devenue une ville enclave où les personnes ne se déplacent plus qu'en gondole. Et des personnages dont un personnage féminin va être en fait décryogénisé à cette époque-là, en 2216. Et elle, finalement, elle vient du monde que nous, d'un monde qui est beaucoup plus proche du nôtre. Et je trouvais ça intéressant de confronter les visions entre une personne de 2216 et une personne de notre époque autour de questions, par exemple, pour la procréation médicalement assistée ou d'autres thèmes qui sont abordés dans le roman. Mais voilà, ce choc un peu des cultures et des générations, je trouvais ça intéressant aussi de l'aborder.
Alors, dernier petit ensemble de questions, une dernière chose qui m'a semblé vraiment faire le lien entre vos romans, c'est le thème de la ville souterraine, donc ce qui est caché sous la ville, et donc voilà, caché à l'intérieur des personnages aussi, bien sûr. Qui veut se lancer, qui commence sur ce thème-là, Julie? Donc une bonne part de la ville est enterrée, et puis il y a aussi des secrets qui sont enterrés dans la communauté.
Oui. Pardon. Oui, il y a des secrets qui sont enterrés dans la communauté parce que, en l'occurrence, au centre, vous voulez parler du centre?
Je veux parler du centre.
D'accord. Qui est chargé donc de fournir les générations futures et de les élever dans des utérus artificiels, donc, et qui effectivement se livre à des manipulations pas toujours très honnête, ça l'héroïne le découvre au fil de l'histoire. Et la question de ville souterraine, effectivement, alors moi c'est vis-à-vis de problématiques climatiques, ouais. et je ne sais pas comment on dit, guerrière, enfin sociétale, voilà. Mais c'est intéressant effectivement d'imaginer, mais cela dit, cependant, mes personnages voient la lumière du jour parce que leur salle de séjour, ils ne sont quand même pas complètement... sont conçus en extérieur, donc voilà, c'est uniquement c'est une stratégie de survie, mais oui, il y a un côté fourmilière, qu'on connaîtra peut-être un jour, d'ailleurs, je sais pas
Oui, oui, c'est bien, c'est une des options, des nombreuses options que nous proposent les villes anticipées du futur. Pour les trois autres, ce sont des souterrains des souterrains historiques. Mais il y a une scène frappante dans les catacombes.
Oui, il y a deux mondes souterrains dans Le Passageur. Il y a le contemporain avec des trains qui passent, la foule qui marche et et voilà, le Paris souterrain actuel, en fait. Et puis, il y a le Paris souterrain des morts, le monde de l'obscurité et des catacombes, où là, voilà, c'est cette ville qui vit au-dessus des morts. Moi, j'aime bien cette idée, ce gruyère, en fait, sous le Paris. Alors, c'est surtout au sud, pour ceux qui se demandent où sont les catacombes, elles sont surtout au sud de Paris.
D'enfer Rochereau.
Ouais. Et c'est immense, ça va dans tous les sens, c'est un labyrinthe incroyable. Et
Donc il y a la fourmilière finalement est au-dessus et en dessous c'est le monde du silence et des tunnels obscurs. Donc j'avais envie de faire descendre mon héros dans la caverne. Bon, forcément, voilà, pour qu'il y trouve des réponses. Hein, c'est vieux comme voilà. Et donc je voyais pas mon passageur ne pas rejoindre le monde des morts à un moment donné. Donc oui, on est descendu dans les catacombes. Mais effectivement, c'est la ville souterraine. C'est l'envers du monde, quoi.
Et dans le nouveau roman, est-ce que, parce que finalement, nous n'en avons pas tellement parlé, est-ce qu'il y a des bunkers, des tunnels, des lieux de résistance ?
Alors, dans le nouveau roman, on est enfermé dans la ville, on est dans une ville dans la ville, on est dans une enclave. Matteo va à Sainte-Anne.
Une autre forme d'oppression.
Ouais. Il est appelé à Sainte-Anne, donc à l'hôpital psychiatrique qui est situé au sud de Paris. Et donc, il y a beaucoup de choses avec l'enfermement, en fait, la réclusion.
Floriane, vous, c'est le donc sur fond de meurtre et de trafic de drogue, l'enquête va amener violente voilà, à parcourir les bas-fonds.
Oui, et puis bah, pareil, les catacombes de Paris, qui existent depuis tellement longtemps, sont un terrain de jeu sans fin. Et oui, en fait, je retrouve beaucoup de choses de moi chez toi, parce que du coup, oui, il y a ce monde en fait où Paris, ben, du coup, est séparé en deux. On a la ville sous le dôme et la ville à l'extérieur, mais on peut circuler entre les deux par certaines entrées via les catacombes qui n'ont pas été toutes refermées et donc qui permettent aux personnages parfois de pouvoir s'affranchir de cette muraille du dôme et de passer dans un monde qui les refuse et qui ne leur appartient pas. Et il y a aussi cette thématique des villes dans la ville, des sociétés dans la société, avec les enfants perdus dans la ferraille qui ont investi, voilà, qui ont recréé un monde et une ville et une organisation et qui survivent comme ça dans cette décharge immense. Il y a la foire aussi, qui a ses propres règles, sa façon de fonctionner, qui fait partie du tout de Paris, mais qui est un peu une zone de non-droit où on peut venir oublier d'où on vient et qui l'on est et qui a probablement aussi ses souterrains et ses faces cachées que bah, du coup Violente va voir ou découvrir un peu en surface et se rendre compte que son univers est bien plus vaste que la maison close où on l'a enfermé très vite, quoi.
Réclusion et souterrain également dans Cendre, qui alors pour le coup est très gothique. Hein, moi, le manoir de la famille noble m'a vraiment évoqué beaucoup de lectures de romanciers anglais et de romancières anglaises du 19e, et donc avec ce souterrain innommable, cet envers innommable de la famille.
Les souterrains dans Cendre sont évoqués aussi, et les souterrains sont plutôt vus comme un moyen pour, on va dire les jeunes bourgeois ou les familles riches, d'aller faire la fête finalement sous la ville et d'avoir un petit moment hors de leur bal mondain.
Oui, voilà. Il y a un beau bal souterrain.
C'est ça. Assez spécial du coup, qui va surprendre notre héroïne. Mais voilà. Et les souterrains aussi qu'on retrouve dans Astronomie et qui ont peut-être encore plus d'importance. Puisque dans Astronomie, les souterrains constituent un peu le centre de la ville et le système qui va aussi approvisionner tous les habitants en air. Donc on les retrouve aussi, les souterrains, dans Astronomie.
Voilà une ville qui va du dôme ou des golds jusque sous la surface, qui explore ses rapports avec la nature et qui redécouvre ses marges. C'était l'ensemble que nous présentait ce très beau panel. Je les remercie, je vous remercie. Bon appétit et à très bientôt.
Merci.